Alors on va continuer ce matin, 2 Corinthiens, on va reprendre 2 Corinthiens, on a presque achevé, on arrive à la fin de cette épître, et on va lire donc du chapitre 12, verset 11, et on va lire jusque chapitre 13, verset 10. « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je n'ai point été à votre charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Soit, je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous? C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté et de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Je vais chez vous, pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la deuxième fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme désapprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification et non pour la destruction. Alors on rappelle un peu le contexte de nouveau. Paul est toujours en train de se défendre contre ses accusateurs, hein, des personnes qui remettaient en question son apostolat, en disant mais est-ce qu'il est vraiment apôtre, hein, l'apôtre Paul. Enfin, Paul. Alors il se défend dans le premier verset que nous avons lu en disant d'abord verset 11, au milieu du verset 11 il dit « Car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien ». Et Paul était au même rang que les autres apôtres, hein, son témoignage, sa vie, ses révélations, tout ce qu'il faisait, c'était une preuve. Et il dit d'ailleurs, verset 12, le suivant, il dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. » Et les preuves qu'un homme été un apôtre choisi par le Seigneur, au même titre que les douze. C'était une endurance, une persévérance, une patience hein, à toute épreuve. Mais c'était aussi des signes, des prodiges, des miracles. Quand il y avait ces choses, alors voilà, on était saisis et on voyait là des preuves. Et c'est normal parce que le Seigneur avait dit, ou a dit plutôt en Hébreux 2, il a dit que il a appuyé le témoignage des apôtres par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc on peut dire que Dieu a fait quelque chose de surnaturel, quelque chose de spécial pour ses apôtres, dont Paul, qui était en quelque sorte comme le 13e, mais qui en faisait partie, hein, qui faisait partie de ses apôtres. Et donc tous ces signes, ces prodiges, ces miracles, c'était une preuve. Vous voyez ça, eh bien vous disiez, ah oui, ben là c'est clair. Et Paul met ça en avant, il dit, mais quand même, vous remettez en question mon apostolat, mais tout ça alors, c'est une réalité, vous l'avez vu. C'était une évidence, et ça montrait sa légitimité. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il va... Il va montrer le contraste, finalement, entre lui et puis ben, ses enseignants, là, ses accusateurs. D'un côté, Paul a fait en sorte de ne pas être à la charge des Corinthiens, c'est-à-dire qu'il ne recevait aucune offrande d'eux. Il recevait des offrandes d'autres églises qui lui permettaient bien de servir les Corinthiens, mais sinon, il n'abusait pas du tout d'eux. Tandis que les autres, les enseignants qui venaient de Jérusalem, eux, eh bien, ils se faisaient rémunérer. Et puisqu'on regardait la grandeur d'un prédicateur à la hauteur de sa rémunération, alors eux, ils disaient, ben, allez-y, hein, nous sommes là pour vous enseigner. D'un côté, on voyait que Paul se dépensait pour eux. Il manifestait son amour. Et de l'autre côté, eh bien, on pouvait vraiment se poser des questions sur la sincérité de l'amour de ces personnes-là, qui finalement ne souhaitait pas le progrès de l'église de Corinthe. Et donc d'un côté on voit la sincérité, on voit la transparence, on voit l'amour, on voit le désintéressement de l'apôtre Paul, et de l'autre côté on pouvait voir de l'hypocrisie, on pouvait voir de la cupidité et même de la méchanceté vis-à-vis de l'apôtre. Et il y a des choses qui ne trompent pas. La vérité, c'est quelque chose qui brille, qui se manifeste, qui se voit. Paul a dit à Timothée, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il faut attendre juste un petit peu. Et il dit de même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Et c'est vrai que parfois, une personne peut cacher son jeu, mais on finit toujours par voir la vérité. À un moment, hop, ça paraît et on le voit. Dieu met en lumière, il révèle ce qui est dans les ténèbres. Et on ne peut pas s'opposer longtemps au bien, au juste, au vrai. Si c'est bien, si c'est juste, si c'est vrai, eh bien ça va se manifester. Dieu finit par donner de la lumière. Et c'était une grossière erreur que d'aller attaquer l'apôtre Paul, justement, qui manifestait le bon, le vrai, le juste, la vérité, et d'essayer de l'enfoncer. C'était vraiment une grossière erreur, un non-sens, une absurdité. Alors Paul dit, 2 Corinthiens 13:8, un petit peu plus loin, il dit, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » C'est précieux. Personne ne peut s'opposer longtemps à l'évidence. L'évidence que Dieu appuie, quand Dieu reconnaît, quand Dieu approuve, on ne peut pas lutter contre ça, ce n'est pas possible. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que Dieu nous approuve? Est-ce que Dieu vous approuve? Regardez, on va lire 2 Corinthiens 13, verset 5. Si vous voulez bien lire ce verset avec moi ou le lire sur le mur, 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Quand il dit « désapprouvé », désapprouvé de qui? Mais désapprouvé de Dieu. à moins que vous ne soyez désapprouvé de Dieu, et la suite hein, nous le montre clairement. Paul dit bien que lui, il est approuvé, mais il se tourne vers ses contradicteurs, il dit, mais vous, est-ce que vous, vous êtes approuvé? Parce qu'on ne peut pas cacher la vérité longtemps, en fait, on ne peut rien cacher à Dieu, on ne peut rien lui cacher. Aujourd'hui, sur les voiliers ou les navires, hein, on a un pilote automatique. Pilote automatique, c'est vraiment très précieux parce que la barre n'est pas tenue en permanence, hein, mais c'est un ordinateur hein, qui recalcule sans cesse la direction. Et puis si ça bouge un peu, hop, il redresse. Et ça permet de garder le cap, d'aller toujours tout droit. Et c'est vraiment important, vous savez, parce qu'une erreur simplement de 3 degrés, c'est 3 fois rien, hein, 3 degrés, vous partez de Marseille, vous voulez aller à Alger et vous vous retrouvez à 40 km. Si simplement vous bifurquez de 3 degrés, c'est vraiment important d'aller toujours dans la bonne direction. Et c'est pour ça, le pilote automatique, c'est très très appréciable. Il recalcule sans cesse et il redresse sans cesse. Et nous, on devrait en faire autant pour nos vies. On devrait de temps en temps s'arrêter et se dire, mais est-ce que je suis dans la bonne direction là? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Quelle est la destination que nous visons? François l'évoquait un petit peu hein, tout à l'heure dans ce qu'il disait. Quel est le but que nous nous sommes fixés? C'est bien de se fixer des objectifs, mais après il faut garder le cap et jusqu'au bout. Et c'est ce qui est le plus dur. Autrefois, même les matelots, ils recalculaient sans cesse leur direction. Mais avec un compas, là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà, ils prenaient le compas et puis ils recalculaient sans cesse. Et c'était une remise en question qui était salutaire. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous? Quand vous vous trompez de Marseille à Alger, ce n'est pas très grave. Mais quand vous vous trompez sur le chemin de votre vie, alors là, ça peut être très très grave. On pense qu'on va arriver à un endroit, à une destination, et puis finalement, on n'arrive pas du tout là où on pensait. Et Dieu veut qu'on vérifie notre compas. Alors nous lisons, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Où en suis-je avec moi-même? Où en suis-je avec Dieu? Dans les Proverbes, on lit ce verset, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite, rectiligne, c'est voilà, impeccable, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et on peut penser qu'on est sur la bonne voie, que l'issue sera favorable. Et puis en fait, ce n'est pas du tout ça. On se trompe complètement. Regardez l'histoire du Titanic. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti, l'insubmersible, 52 000 tonnes, il pensait que son avenir était tout tracé. Et puis finalement, cet iceberg a éventré tout le côté et c'en était terminé du Titanic. J'ai regardé une émission intéressante avec Kimberly où ils essayaient de comprendre comment ça a pu arriver. Comment ils ont pu rater un iceberg? La nuit était claire, le temps était beau, la mer était calme. Comment c'est arrivé? Et en fait, ils ont essayé de regarder toutes les données météorologiques. Et ils ont réussi à trouver des fichiers, je pense des Allemands, qui avaient répertorié chaque température et chaque élément météorologique de cette année-là. Donc c'était 1912. Et donc ils sont allés creuser dans tout ça. Et c'était tous les navires qui avaient noté ça. Et eux, ils avaient gardé tout ça dans une chambre, enfin une bibliothèque. Et là, ils se sont aperçus que quand le navire est arrivé au lieu de l'impact, c'était au même moment où il y a eu une vague de froid qui descendait du nord, et puis en même temps l'air doux qui montait vers le nord. Et donc, il y a eu ce choc entre ces deux masses d'air. Et en fait, en creusant, ils se sont aperçus que quand il y avait ce choc entre ces deux masses d'air, ça pouvait produire ce que l'on voit dans un désert, c'est-à-dire un mirage. C'est l'horizon qui commence à être imprécis, qui se trouble, on voit plus nettement, et puis voilà, un mirage. Et probablement, eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est que les deux matelots qui étaient en charge de regarder, ben, ils voyaient, mais ils ne voyaient rien. en fait. C'était un peu troublé, l'horizon n'était plus net, plus clair. Et puis quand ils sont arrivés, c'était trop tard quand ils l'ont vu. Soudain, et là, ça a éventré tout le navire. Le temps qu'ils changent de bord, le temps qu'ils freinent, c'était impossible. Ils étaient trop lancés. Et vous savez, nous aussi, on peut être un peu comme dans un navire, là, et puis on regarde, et puis il y a comme un mirage. On se dit, ah, ça va être bien, ça va être très très bien, tout va bien à l'horizon, une mer calme. Il ne peut rien arriver. Et on ne voit pas qu'on est en train de se préparer quelque chose qui n'est pas bon. Pas bon du tout. Telle voie paraît droite à un homme, et son issue, c'est la voie de la mort. Cette semaine, j'ai pensé à Jean-Daniel, parce que j'ai eu une douleur à une côte, mais pas devant, derrière, c'est-à-dire à la base de la colonne qui part, plein milieu là, une douleur, j'en dormais plus. J'arrivais plus à dormir, je ne savais pas comment me mettre, c'était impossible d'enlever cette douleur. Ça a duré 3-4 jours comme ça. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, on est une créature merveilleuse, comme dit la Bible, hein. C'est incroyable, même la régénération du corps, etc., la force, l'intelligence, etc. Mais on est vraiment très fragile. Une petite chose, et on est anéanti. On ne peut plus bouger, hein, et quand vous vous cognez un orteil, c'est terrible, c'est rien du tout un orteil, hein. Mais alors, vous vous arrêtez là, hein. On est vraiment fragile, on n'est rien, notre vie sur terre, elle peut basculer en un instant, on se dit c'est bon, je contrôle, tout va bien, et un instant, et je contrôle plus rien, je suis anéanti. Et ça invite vraiment à chercher la face de Dieu et à se remettre en question et être prêt à redresser son cap. Vous vous souvenez du fils prodigue? Il y croyait, le fils prodigue, hein. Il était sûr, il allait réussir dans sa vie. Le monde était à lui. Super. Avec l'héritage de son père, sa vie, elle serait plus jamais la même. On quitte papa, maman, c'est bon. Ciao. Ça va être le bonheur. Et après quelques mois ou quelques années, je ne sais pas, le voilà brisé, vaincu, soudain, prêt à s'examiner lui-même. Au départ, il n'était pas prêt. Et maintenant, il est prêt à se regarder lui-même et à s'examiner. C'est pas facile de s'arrêter et de réfléchir sur soi-même. Parfois, il faut un coup dur. Il faut que Dieu brise nos plans. Et là, on est arrêté et on commence à réfléchir. Qui nous montre que sans lui, c'est vain. Que par notre propre force, notre propre intelligence, c'est vain. On va vers un naufrage. La Bible dit, il est rentré en lui-même. En fait, ce fils, il s'est examiné comme Paul nous invite à le faire ici. Où il dit, examinez-vous vous-même. Et puis, il a fait un bilan de ses choix, de ses décisions, de sa vie. Et là, il a amorcé une vraie repentance. Une vraie repentance. Et la repentance, vous savez, c'est faire un demi-tour. On fait un demi-tour. C'est prendre conscience qu'on a pris une mauvaise route et hop, on bascule à 180 degrés pour repartir dans l'autre direction. Et ce jeune homme, il est dit qu'il s'est dit en lui-même, « J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est ça la repentance. C'est mettre le doigt sur son péché. C'est appeler un chat et appeler notre péché du péché. C'est du péché, Seigneur. C'est ça, se repentir. Oui, c'est du péché. Et c'est intéressant de voir qu'il va dire, j'ai péché contre le ciel, premièrement, et puis après j'ai péché contre toi, mon Père. Et quand on pêche, l'homme n'a pas conscience, mais il pêche d'abord contre Dieu. Premièrement, parce que la Bible dit que nous avons tous été faits à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, il y a l'image de Dieu dans chaque homme. Et lorsque quelqu'un pêche contre quelqu'un, il pêche premièrement contre Dieu parce qu'il y a l'image de Dieu dans cette personne. Si quelqu'un, par exemple, lève la main sur quelqu'un d'autre, ben c'est comme s'il lève la main contre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, il jugera. Ensuite, la définition du péché, c'est une transgression de la loi divine ou de la loi morale de Dieu. Et lorsqu'on pêche, on va contre ce que Dieu a établi comme bon, comme vrai, comme bien, le bien. Voilà, nous allons contre cela. Et en faisant ce choix de pécher, eh bien les conséquences, elles sont toujours mauvaises, à la fois pour nous et pour les autres. Et c'est pour cela, la repentance, elle commence envers Dieu. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et quand on s'examine soi-même, ben ça permet de prendre conscience et de pouvoir eh bien, se repentir. Et c'est l'examen de nous-mêmes que Dieu nous invite à faire. C'est très important à comprendre, parce que quand on vient à l'église, on ne vient pas faire l'examen de telle personne, de telle sœur, du prédicateur, de la prédication, l'examen de la parole de Dieu, l'examen du culte, l'examen du bâtiment. Non, il dit « examinez-vous vous-même ». On vient faire un examen de soi-même, en fait. Hein. C'est salutaire pour nous. C'est ça qui est important. Des fois, on est trop occupé à s'occuper des autres et à regarder les autres et on s'oublie, en fait. Mais Dieu veut qu'on s'examine soi-même. D'ailleurs, dans le texte grec, l'accent est mis sur le « vous-même ». Et pour reprendre un peu le contexte, Paul renvoie l'ascenseur à ses hommes, à ses enseignants dans l'église de Corinthe qui remettent en question son apostolat. Il dit « Ok, mais alors vous, est-ce que vous êtes dans la foi ? Est-ce que vous êtes dans la foi ? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Qu'est-ce que c'est être dans la foi ? Qu'est-ce que c'est ? Si je vous posais la question, qu'est-ce que c'est être dans la foi ? Qu'est-ce que vous diriez ? Sûrement vous diriez, être dans la foi, c'est croire en Jésus. C'est croire qu'il est venu. C'est croire qu'il est mort. C'est croire qu'il est ressuscité. C'est croire qu'il a un message qui est authentique, qui est bon, qui est vrai, qu'il faut mettre en pratique, hein, qui peut changer l'humanité. Et si vous croyez tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais est-ce que c'est vraiment ça, être dans la foi ? C'est pas ça, être dans la foi. C'est bien, mais c'est pas ça. Il y a des millions de gens qui croient ce que je viens de dire. Ils croient que Jésus est mort, ils croient qu'il est ressuscité. Il croit qu'il faut croire en lui. Il croit que Jésus a un message qui peut changer l'humanité. Il le croit. Et pourtant, ils ne sont pas dans la foi. Peut-être même que ces hommes, là, ces enseignants, ils le croyaient. Mais ils n'étaient pas du tout en communion avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était dans la foi. Et eux avaient une foi, une certaine foi. Paul vivait dans la foi au Fils de Dieu, tandis qu'eux vivaient dans une certaine foi, on va dire. Et être dans la foi, c'est quelque chose de vraiment très particulier, unique. C'est plus que croire que Jésus est venu. Être dans la foi, c'est comprendre la raison même de la venue de Jésus-Christ. Et c'est s'approprier cette vérité, c'est le croire. Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment un Dieu qui est saint, qui est pur, qui est sans péché, il peut avoir une relation avec un homme qui est dans la boue, qui est dans le péché, qui est sale ? Comment c'est possible ? Beaucoup de gens se disent que s'ils sont des bonnes personnes, s'ils ne font pas de mal au prochain, s'ils respectent les autres, si même ils manifestent une certaine générosité, une certaine bonté, alors eh bien Dieu les approuve. Et Dieu les accepte. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. C'est faux. La Bible dit que naturellement, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes tous naturellement séparés de Dieu. Certains pensent que connaître Dieu, c'est quelque chose... J'ai vu encore une dame âgée il n'y a pas très longtemps. Je dis, alors depuis combien de temps on connaissait ça ? Oh, depuis que je suis bébé. C'est formidable, hein ? Comment elle a pu connaître le Seigneur bébé ? Elle connaît le Seigneur depuis toujours. Il n'y a jamais eu de rupture entre sa communion depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est merveilleux ça, hein ? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient par la suite. Nous sommes tous séparés de Dieu. Dieu dit, regardez Jérémie 13, 23. Jérémie 13, verset 23. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible que vous fassiez le bien ? La réponse est sous-entendue. C'est non. Ce n'est pas possible. Nous sommes des pécheurs et nous sommes accoutumés, habitués à faire le mal, à commettre des péchés. Ça fait partie de nous. Ça nous colle à la peau. C'est notre nature. C'est dans nos gènes depuis toujours. Nous l'avons hérité de nos pères. C'est ce que David dit dans un psaume. Et même si notre vie a un vernis de bonté, de sagesse, de philosophie, de savoir-vivre, ben, le péché est quand même là en nous. Hein. Le vernis est beau, mais le péché est là. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu a dit par la bouche de Salomon, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Aucun. Nous sommes tous pécheurs. Nous péchons tous. Il n'y a pas d'homme saint sans péché. Donc, la relation avec Dieu, elle est impossible. Elle est impossible. À moins d'être dans la foi. C'est ça qui change tout. Si on est dans la foi, alors là, ça change tout. L'apôtre Paul disait, « Si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et là, il y a une vérité essentielle à comprendre et à saisir pour soi-même. Le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. En tant que pécheur, en tant que coupable, nous méritons tous la condamnation. Mais Jésus a accepté de prendre notre vie injuste, pécheresse, et d'en subir le jugement, la condamnation. Et j'aimerais qu'on lise un verset qui est très précieux, 2 Corinthiens 5, verset 21. Il était affiché tout à l'heure, mais si on peut le relire ensemble, 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il... » Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On ne peut pas être plus clair. Jésus n'a point connu le péché pour nous, pour vous. Pourquoi faire ? Pour vous offrir sa justice. Et Dieu l'a fait péché pour nous. Il l'a fait péché pour nous. C'est pas que le péché est entré en lui. C'est pas ça. C'est plutôt que, juridiquement parlant, il a été fait péché pour nous. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert. Dieu a pris notre péché, il l'a transféré sur Jésus-Christ. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a donc un échange, un transfert du péché et de la justice. Le Fils de Dieu qui nous a aimés nous a donc fait un cadeau, il nous a fait une grâce, il nous a fait une faveur. Il a mis à notre crédit sa justice. Lui qui avait une vie impeccable. Impeccable, vous savez, ça vient de... en italien, qui est-ce que toi ? Comment on dit péché en italien ? Peccato. Peccato, impeccable. Impeccable, c'est sans péché. Jésus a eu une vie sans péché. Impeccable. Et cette vie merveilleuse, belle, sainte, pure, juste, il nous la transfère, il nous la donne. On lui donne notre sac impur, il nous donne son sac merveilleux, cette pureté, ce vêtement de justice impeccable. Paul disait, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça être dans la foi. C'est ça être dans la foi. C'est comprendre ce transfert et vivre dans la foi à cette chose, hein, dans la foi à ce qu'il a fait pour nous. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi au Fils de Dieu. Pour savoir finalement si votre vie, elle est cachée en Jésus. Et dans ce fait qu'il a pris votre péché, qu'il vous a donné sa justice. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nos propres forces. Il faut que cette vérité elle soit ancrée en nous. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nos propres forces. C'est impossible. La justice de Dieu, elle est trop haute, elle est trop élevée, elle est trop grande. Sa sainteté, elle est inatteignable. Nous sommes à des années-lumière de ce que Dieu nous demande. Cette pureté, cette perfection, nous sommes à des années-lumière dans le péché. Nous ne pouvons pas lui plaire. Et Dieu ne nous demande pas d'essayer de lui plaire. C'est impossible. Impossible. Un jour, la foule est venue vers Jésus. Et elle lui a dit, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» L'œuvre de Dieu ou les œuvres de Dieu. Donc, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Et l'homme veut faire. Il veut faire pour plaire à Dieu. Il aimerait chercher à plaire à Dieu par ses propres forces. Mais on ne peut pas lui plaire. On ne peut pas. Parce que le péché reste en nous. Alors Jésus leur a répondu, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, en fait, c'est que vous croyez en moi, Jésus-Christ. C'est ce qu'il leur a dit. Croire dans sa venue, croire dans ce qu'il nous offre, dans ce transfert gratuit, par sa grâce. C'est merveilleux. Être dans la foi, c'est donc être dans la foi en lui, dans cette vérité merveilleuse. Et vous savez, c'est quelque chose d'important aussi à comprendre pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Parce que parfois, on accepte Jésus par la foi. Et après, on veut chercher à lui plaire par nous-mêmes, par nos œuvres, par nos efforts. On se donne du mal. On fait des sacrifices. Et on présente tous nos sacrifices un peu comme Caïn, avec la belle corbeille. « Seigneur, regarde tout ce que je fais pour toi. » Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas lui plaire par nos propres forces. C'est même impossible. Le moi sanctifié, il ne peut pas plaire à Dieu. Parce que c'est ça en fait. C'est un moi sanctifié. Non, ça ne plaît pas à Dieu. C'est impossible. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Paul était donc mort à lui-même. Il n'essayait pas de plaire à Dieu par sa chair, par ses propres efforts, ses forces, mais simplement, il tâchait de rester chaque jour en Jésus. Et vous savez, en Jésus, nous plaisons à Dieu. C'est merveilleux ça. Je suis en Jésus, je plais à Dieu. Simplement être en Jésus. En Jésus, nous sommes impeccables, sans péché. En Jésus, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. On est accepté. En Jésus, on ne cherche pas à mériter quoi que ce soit. On est accepté. En lui, la communion, elle est parfaite, sans ombre. C'est le ciel déjà sur terre. Nos péchés sont réglés, sa justice nous est accordée. En Jésus, nous sommes donc saints, aimés, bénis, choyés par Dieu. Et l'enfant de Dieu doit aussi s'examiner lui-même pour savoir s'il est bien dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire, demeurant en lui, finalement, c'est ça cette expression, hein, quand il dit « demeurez en moi », ou il dit « demeurez dans mon amour », bah, c'est être dans la foi, c'est être en lui, en sécurité, protégé. 2 Corinthiens 13, 5, Paul dit « Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Et un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui. Je ne veux pas dire en lui d'une manière imagée. Par exemple, qu'il est dans ses pensées ou dans sa philosophie de vie. Mais il est en lui, vraiment, d'une manière réelle, d'une manière concrète, par le Saint-Esprit. Lorsque Dieu fait ce transfert de notre péché sur Jésus et de sa justice sur nous, alors, eh bien, dans le même temps, il nous donne le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur. Et c'est ça qui fait que finalement nous sommes approuvés. C'est parce qu'on a la nature de Jésus-Christ en nous. Alors il nous regarde et nous sommes approuvés. Pleinement. On n'est pas approuvés parce que notre vie est assez droite et qu'on arrive à la tenir. On n'est pas approuvés parce qu'on se retient de pécher. On n'est pas approuvé parce qu'on respecte les autres et on essaye de faire du bien aux autres. On n'est pas approuvé parce qu'on aide ou on aime notre prochain. On n'est pas approuvé à cause de ces choses. On est approuvé uniquement à cause de Jésus-Christ qui est en nous. Là, nous sommes approuvés. C'est le Fils qui a une vie impeccable. Lui, il a toute l'approbation. C'est le bien-aimé. Et donc, quand il est en nous, il y a une communion qui fait qu'on est approuvé avec lui, en lui. C'est lui qui est approuvé. Notre vie humaine, elle est souillée, elle est tachée par le péché. Mais Jésus nous a donné un merveilleux moyen d'être libéré de cela. C'est de nous placer simplement dans sa vie parfaite. Et Dieu nous invite à nous examiner chacun nous-mêmes. Et où en sommes-nous? Où en êtes-vous? Est-ce que vous vivez vraiment dans la foi au Fils de Dieu? Ou vous vivez dans vos efforts? Dans vous-même finalement? On va s'incliner dans la prière. Père éternel, merci, merci pour cette vérité précieuse, merveilleuse. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous bénisses chacun et que tu nous aides à être toujours honnêtes vis-à-vis de toi et à faire ta volonté, Seigneur, et à comprendre ces choses et à les vivre. Seigneur, tu nous tends la vie simplement par la repentance, par la foi. La foi que ce transfert est effectif, simplement en y croyant, en le demandant. Et pendant qu'on a les yeux fermés, j'aimerais vous donner l'occasion de donner votre vie à Jésus et de vraiment saisir cela pour vous-même. Vous pouvez faire une prière sincère. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui dire « Seigneur Jésus, je reconnais que je sais des choses de toi, mais que je ne te connais pas vraiment. » C'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire dans votre cœur, ça ne regarde que vous. Mais si vous savez que votre vie est un virage, alors eh bien c'est peut-être aujourd'hui le jour du salut. Et aujourd'hui le temps de donner votre vie. Vous pouvez lui dire, Seigneur Jésus, je crois à cette vérité. Je crois que tu es mort pour moi et que tu me donnes ta justice. Je suis un pécheur. Vous pouvez lui dire, mettre le doigt sur votre péché, vous le savez. Dire, je suis pécheur, je fais le mal. Je te demande de me pardonner. Je me repens. Je te demande de faire de moi ton enfant. Sauve-moi, donne-moi ta justice. Je crois en toi. Et si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez pris conscience que peut-être vous vivez dans vos propres forces, alors vous pouvez demander au Seigneur, viens-moi en aide, Seigneur. Aide-moi à vivre en toi, dans la foi au Fils de Dieu. et ne pas vivre par mes propres forces. Que tu croisses et que je diminue. Merci Seigneur de le faire pour moi, pour chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen.